que vous m'entendez bien?
Oui. Ah.
Sœur Monique vous a rappelé le thème de cette récollection, découvrir le cœur de Jésus, sa miséricorde. Alors ce matin, comme cet après-midi, je vais vous présenter quelques pistes pour faire cette découverte, quelques démarches. La première, ce sera contempler l'Évangile. Où est-ce que l'Évangile nous parle du cœur miséricordieux de Jésus ? Et pour chaque étape, vous avez reçu, je crois tout le monde a reçu des feuilles. Donc il y a une feuille par étape. Et puis nous passons à la tradition de l'Église. Comme vous le savez, Vatican II nous l'a rappelé, pour recevoir la révélation du Christ, il ne suffit pas de lire l'Écriture sainte, mais aussi il faut se mettre à l'écoute de la vie de l'Église où des saints, des mystiques, des fidèles ont vécu l'Évangile et nous en font découvrir la profondeur. Alors pour notre sujet, j'évoquerai trois personnages. Quand nous pensons au cœur de Jésus, nous pensons d'abord à Marguerite Marie et la révélation de Parénémonial. Et aujourd'hui, nous sommes très marqués par Sœur Faustine Kowalska. Et entre les deux, il ne faut pas l'oublier, c'est ce que j'ai tâché de montrer dans l'introduction à l'appel de l'amour, il y a Sœur Josefa Menéndez. Et en particulier, nous aurons l'occasion d'aborder avec elle le thème de la miséricorde. C'est étonnant. Vous savez que depuis quelques années, on fait des congrès de la miséricorde inspirés par Sœur Faustine et Jean-Paul II qui a mis toute son énergie à faire connaître à l'Église ce message de la miséricorde divine. Mais pour avoir étudié vraiment de près l'appel à l'amour et avoir page par page relever le mot miséricorde, je peux vous dire que c'est très impressionnant de voir comment déjà, avec Sœur Josefa, le Seigneur parlait de la miséricorde. Donc, première étape, l'Évangile. Deuxième étape, la tradition d'Église, ses témoins. Nous prendrons Sœur Josefa. Alors, quatrième étape, c'est vénérer l'image du cœur de Jésus ou l'icône du Christ miséricordieux. Dans notre sujet, c'est une démarche originale. Vous savez que déjà, avec Sainte Marguerite Marie à Parénémonial, le Seigneur a invité à vénérer son cœur de chair, à vénérer une image. Mais avec Sœur Faustine, nous verrons ça de plus près cet après-midi, le Seigneur lui a vraiment demandé de peindre un tableau et lui a suggéré un certain nombre d'éléments que nous regarderons de près. Et enfin, pour terminer, la dernière piste que je vous propose, c'est l'adoration eucharistique. Et là, je reviens à Sainte Marguerite Marie. Bien sûr, vous le savez, l'adoration eucharistique dans l'Église d'Occident date du XIIIe siècle, l'époque où il y a eu l'institution de la fête-Dieu grâce à Julienne de Cornillon, Sainte Julienne de Cornillon. Mais dans la spiritualité du cœur de Jésus, et en particulier, nous le verrons, à cause des révélations de Parémémonial, l'adoration eucharistique a trouvé une grande importance. Et nous verrons ce que Sainte Marguerite Marie peut peut-être apporter au renouveau de l'adoration eucharistique que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà quatre démarches possibles. J'en présenterai deux ce matin, deux cet après-midi. Mais ce qui est important, c'est pas de venir écouter une belle conférence, c'est la démarche que vous allez faire avec le Seigneur pendant le temps de prière. Et là, j'aimerais vous recommander, avant de prendre le temps de prière, mettez-vous vraiment à l'écoute de l'Esprit-Saint, et après avoir écouté l'enseignement, demandez à l'Esprit-Saint, mais qu'est-ce que là-dedans il y a d'important pour moi aujourd'hui? Laissez-vous guider par l'Esprit-Saint. Alors, vous savez qu'il y a une grande règle que Saint Ignace a énoncée au niveau de la prière. Ce n'est pas l'abondance de la matière qui rassasie l'âme, mais de goûter et de sentir les choses intérieurement. Donc la démarche que nous propose Saint Ignace est à l'inverse de notre société de consommation. On a le sentiment, plus on en est, mieux c'est. Saint Ignace nous dit, il suffit de peu de choses pour que nous puissions goûter et sentir les choses intérieurement. Si vous permettez, je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu dans une retraite. Je méditais sur la nativité dans Luc, donc au chapitre 2, là, les premiers versets. Et si vous voulez, quand je suis en retraite, le Seigneur ne me donne jamais des textes d'écriture difficiles. Les plus simples, parce que je dis, pauvre garçon, il faut quand même qu'il se repose un peu, qu'il ne soit pas tout le temps en train de réfléchir sur le sens de l'écriture. Et alors là, il y a un verset, au chapitre, verset 7 du chapitre 2, où il est dit que Marie prit l'enfant, l'emmaillota et le déposa dans la crèche. Avouez, il y a rien de... pas de grande profondeur théologique, apparemment. Eh bien, si vous voulez, toute ma journée, j'ai médité sur ce verset. D'abord parce que je sentais intérieurement, le Seigneur veut te dire quelque chose à travers ce verset. Alors, la prière, on prend le temps de prier. Et puis, au moment donné, si vous voulez, c'était vraiment... j'ai découvert, ou plutôt le Seigneur m'a montré, avec quel amour Marie avait pris l'enfant, l'avait emmailloté, l'avait mis dans la crèche. Alors, vous devinez que découvrir un peu cet amour de la Vierge Marie vous donne un tout autre regard sur le mystère de la nativité. Dieu qui s'est fait homme a besoin d'être enveloppé de l'amour d'une mère. Je ferme la parenthèse. Donc ceci pour vous encourager à vous mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint, à bien partir, même d'un point qui paraît anodin, vous laisser conduire dans la prière. Et puis, en dehors de la récollection, ben, si vous voulez revenir à telle ou telle chose qui vous a intéressé, vous pourrez toujours le faire. Mais aujourd'hui, je vous invite vraiment à goûter et à sentir les choses intérieurement. Alors j'aborde la première démarche, découvrir le cœur de Jésus miséricordieux dans les évangiles. Vous avez une feuille où j'ai rassemblé les différents textes. Si vous voulez, pour découvrir le cœur miséricordieux de Jésus, j'ai regardé un mot, c'est le mot avoir des entrailles, être ému, avoir de la compassion, de la pitié, c'est ce mot-là que j'ai choisi. Alors, je vais lire les textes avec vous, et puis vous verrez qu'il y a un fil conducteur. D'abord, dans Matthieu 9, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous connaissons, c'est presque un refrain dans les évangiles, lorsqu'on nous parle du ministère de Jésus. Il parcourt les villes, les villages, il enseigne, il guérit. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Dans ce texte, comme dans les suivants, vous verrez qu'il y a une notation importante. Jésus fut saisi de compassion. Avec cette notation, si vous voulez, nous ne restons pas à l'extérieur du ministère de Jésus, mais nous découvrons son cœur. Et pourquoi est-ce que Jésus est saisi de compassion ? Ses foules étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Je vous avoue qu'il m'arrive souvent, je circule habituellement en métro, comme d'autres parmi vous, eh bien, faites, j'allais dire, cette contemplation de Jésus. Regardez cette foule qui est dans le métro. Regardez ces gens. Et on peut se dire, mais est-ce qu'ils ont rencontré Jésus ? Est-ce qu'ils ont découvert son amour ? Qu'est-ce qui habite leur cœur ? Cette manière de regarder à la suite de Jésus peut nourrir notre prière. Je passe au chapitre 14. Quand Jésus apprit cela, c'est-à-dire la mort de Jean-Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, ils le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit les malades. Nous retrouvons le mot « il fut saisi de compassion », mais nous voyons ici que pour Jésus, éprouver la compassion, c'est agir. Jésus est touché par ses foules, par les malades, par ceux qui souffrent, et il guérit leurs malades. Là, il y a quelque chose de caractéristique de la compassion. La compassion, si vous voulez, c'est pas l'éponge où nous allons rechercher tous les malheurs du monde. Il y en a, il y en aura encore et toujours. Mais que faisons-nous pour ce monde? Où nous conduit la compassion? Il y a un texte parallèle dans saint Marc. En débarquant, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Dans le texte précédent, chez Matthieu, il était question de guérir les malades. Ici, il est question d'enseigner longuement, d'apporter une nourriture à leur intelligence. Nous continuons au chapitre 8 de Marc. C'est le second récit de ce qu'on appelle la multiplication des pains. Je n'aime pas beaucoup ce mot « multiplication des pains » parce que le mot « multiplier » n'est pas dans le texte. Et puis, ce mot fait fonctionner notre imagination. On se dit, mais Jésus, il multiplie. Il est question de partager les pains. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appela à lui les disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours, ils restent là auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ?» Ici, dans le désert. Jésus a compassion de la foule parce qu'elle a faim. C'est une autre dimension. Et Jésus, comme vous le savez dans ce récit, va leur donner à manger en abondance. Et vous le savez, la multiplication des pains annonce l'Eucharistie qu'un jour Jésus instituera avant de mourir. Le texte suivant, nous le trouvons dans Saint-Luc. C'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Donc jusqu'à présent, il avait été question pour Jésus, saisi de compassion, de guérir les malades. Nous voyons ici, nous avons le cas d'une résurrection de ce fils unique, de la veuve de Naïm. Et de nouveau, tout commence par ce moment où Jésus est saisi de compassion. Alors maintenant, je vais voir avec vous un dernier texte, ça va peut-être vous étonner. C'est la parabole du bon samaritain. Donc habituellement, et c'est vrai, lorsque nous lisons cet évangile, cette parabole est donnée à Jésus pour faire comprendre aux scribes qui lui demandent quel est mon prochain, pour lui faire comprendre, ben voilà, quel est ton prochain. Et Jésus lui fait dire, mon prochain, c'est celui dont je me rends proche. C'est la leçon de la parabole. Eh bien, les pères de l'Église, si vous voulez, ont considéré que le bon samaritain, c'était Jésus. Je vais d'abord lire le texte de l'Évangile et puis je vous donnerai brièvement l'interprétation des pères. Et vous verrez comment, à partir de là, il y a quand même une présentation de ce qu'est le ministère de Jésus, comme ministère de miséricorde. Jésus donc reprit la parole, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits, ceux-ci après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Alors, le Samaritain va passer aussi. Il va voir cet homme, mais il ne va pas passer de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que ce Samaritain fut saisi de compassion. Alors, avant de continuer, permettez-moi de dire un mot du prêtre et du lévite. Ils ne pouvaient pas s'approcher d'un homme à demi-mort sans contracter, selon la loi juive, une impureté rituelle qui les empêchait d'exercer le service qu'ils avaient au temple. Parce que très souvent, on accable et le prêtre et le lévite disant, ben ceux-là, ils auraient pu s'arrêter. Ils étaient liés par des prescriptions rituelles. Vous voyez, je défends un peu la corporation, mais ça, vous comprendrez. Mais un Samaritain qui était en route, je reprends le texte, arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Donc ici, comme en d'autres endroits, Luc excelle à nous donner une abondance de détails pour montrer comment cette compassion du Samaritain s'exprime à travers des gestes de solidarité. Hein, il s'approche, il prend ses blessures, verse l'huile, le charge sur sa monture, le conduit dans une auberge, le lendemain, etc. Et puis, on arrive à la conclusion de la parabole, lequel de trois noms a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits. C'est la question de Jésus au scribe. Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. Alors, je vous lis, c'est une note de la Bible de Jérusalem, l'interprétation des pères, qui est très bien résumée. L'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho est Adam qui descend du paradis dans le monde. Il est attaqué en chemin par les forces ennemies. Ni la loi, figurée par le prêtre, ni les prophètes, figurés par le lévite, ne le relèveront, ni ne panseront ses blessures, sa désobéissance. Seul le Christ, représenté par le bon samaritain, le sauvera et le confiera à l'Église. Quant à la promesse qu'il fait de revenir, elle préfigure le second avènement du Christ. Donc vous voyez ce qui est étonnant dans l'interprétation, je dirais, christologique des pères, c'est comment le Christ est au centre d'une histoire du salut. Adam a connu la chute, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, représentée par le prêtre des Lévites, ne peuvent rien pour lui, il n'y a que le Christ qui peut le sauver, mais le Christ ne le sauve pas seul, hein, il a besoin de l'amener à l'auberge. Alors, pour les pères, si vous voulez, l'auberge, c'est l'Église. Vous vous rappelez que récemment, dans une des trouvailles du pape François, il compare l'Église à cet hôpital de campagne, parce que nous sommes engagés dans le combat, il y a des morts, des blessés et encore quelques vivants. Si vous voulez, ça rejoint le thème de la parabole. Il faut que l'Église soit l'auberge du bon samaritain, qui accueille justement ceux qui sont à demi-morts, blessés par la vie. Alors, au terme de ces textes de l'Évangile, je vous pose une question qui peut vous aider éventuellement dans votre contemplation. Quelle est mon image de Jésus, Dieu fait homme? Alors ici, il faut bien distinguer, si vous voulez, il y a un niveau conscient. Je fais parfois l'exercice avec des jeunes. Il y a un tableau et je leur dis alors Dieu. Quelle est votre image de Dieu ou de Jésus? Alors, on remplit un tableau et on trouve dans le tableau à peu près tout ce qu'on a pris au catéchisme. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Pas seulement ce qu'il y a au niveau conscient, mais inconscient au plus profond de nous-mêmes. Quelle est notre image de Jésus? Alors, je dis, est-ce que c'est un Dieu qui a des entrailles? Est-ce que c'est un Dieu qui se laisse toucher par la souffrance, la faim, la détresse des hommes et qui agit? Il guérit les malades, rassasie les affamés, prend soin de ses brebis. En un mot, est-ce un Dieu miséricordieux? Alors ici, je fais un peu une étymologie fantaisiste du mot miséricorde, c'est-à-dire quelqu'un qui prend à cœur notre misère humaine. Quelqu'un qui prend à cœur notre misère humaine. Ou bien est-ce que c'est un Dieu indifférent, un Dieu impuissant, inactif, un Dieu qui agit chez les autres, mais pas chez moi, etc., on peut imaginer. Donc vous voyez que ces passages de l'Évangile peuvent nous conduire très loin pour nous interroger, est-ce que vraiment Jésus est miséricorde pour nous? Je terminerai par une histoire que j'ai vécue dans un rassemblement de parédémonial. Donc c'est un rassemblement un peu particulier, c'est-à-dire dès qu'on arrivait, on était embauché pour différents services. Et alors, je vois une maman qui s'amène en deux chevaux, il est torride, avec quatre gosses qui avaient dû être insupportables pendant le trajet. Et la pauvre avait mal à la tête, elle avait mal au dos, et puis on lui demande d'aller faire la vaisselle. Alors, Dieu pourvoit tout, comme vous savez. Ceux qui faisaient la vaisselle assistaient à la messe avant le repas de midi. Et au cours de cette Eucharistie, le prêtre qui célébrait, il ne s'agit pas de moi, après la communion, annonce voilà, le Seigneur guérit une maman ici dans le groupe qui a mal à la tête, qui a mal au dos, etc. Vous connaissez ce genre. Et alors, si vous voulez, sa réaction est très typique. Elle se dit, c'est pas pour moi, c'est pour ma voisine. Dieu ne fera jamais ça pour moi. Vous voyez comment nous sommes tendus. Hein? Ça nous arrive tous, à moi aussi. Bon. Mais je ne citerai pas d'exemple personnel parce que mon humilité en apprendrait beaucoup. Eh bien, ce qui l'a sauvée, c'est ce dont elle a témoigné, c'est qu'elle s'est dit, au lieu de me perdre dans des discussions sans fin, c'est pour ma voisine, c'est pas pour moi, etc. Elle a loué le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te bénis pour ce que tu fais, pour le moment, pour cette maman, etc. Et à mesure qu'elle louait, il y avait cette chaleur qui lui montait dans tout le corps, qui l'a libéré de ce mal de tête, de ce mal de... Pourquoi ? Parce que la louange nous décentre de nous-mêmes et de nos discussions stériles. Alors, nous passons au second point. Donc je vous disais tout à l'heure ce qui est intéressant dans la spiritualité du cœur de Jésus, c'est qu'elle s'enracine dans l'Écriture sainte, et particulièrement dans les évangiles. Je ne vais pas vous rappeler les textes, mais dans la vie de l'Église, dans la tradition de l'Église, des saints, des mystiques, etc., nous aident à comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire dans l'Écriture sainte. Et en un mot, c'est ce qu'on appelle les révélations privées. Donc quand elles sont authentifiées par l'Église. Alors aujourd'hui, il est bon de rappeler que il ne faut pas confondre ce qui est parole de Dieu et ce qui est révélation privée. Même si, on l'a encore reconnu dans le dernier synode sur la parole de Dieu, elles ont leur place dans la vie de l'Église lorsqu'elles ont été authentifiées. C'est ce que nous trouvons dans les écrits de Marguerite Marie, de Sœur Josepha, de Sœur Faustine. Pendant quelques années, j'ai fait partie d'une fraternité d'hommes, et parmi ces hommes, il y avait quelqu'un qui était un chef d'usine et qui s'était converti en lisant justement beaucoup de révélations privées. Et j'avais de la peine à lui, je n'ai pas réussi d'ailleurs, il est mort avant, à lui dire, écoutez, vos révélations privées c'est très bien, mais la parole de Dieu c'est plus important parce qu'elle est inspirée par l'Esprit Saint et accueillie comme telle par l'Église. Alors, lui n'en démentait pas. Il dit, mais non, ces personnes qui disent qu'ils ont reçu les messages du Seigneur, eux aussi sont inspirés par Dieu. Donc là, de ce point de vue-là, je tiens à rappeler, il y a quand même une différence. Maintenant, parlons de Sœur Josepha Menendez, messagère de la miséricorde divine. Ce que je vais d'abord, je vais vous lire une série de petits textes pour vous montrer comment d'abord Jésus se présente à Sœur Josepha Menendez et comment Jésus lui révèle le désir profond de son cœur, c'est de communiquer sa miséricorde. Et puis nous lirons ensemble le texte que j'ai mis sur vos feuilles. Donc vraiment le message du Seigneur à Sœur Josepha et la mission qu'il lui confie de faire connaître sa miséricorde. Donc dans l'appel à l'amour que vous connaissez, Jésus se présente lui-même à la première personne en une dizaine de passages avec l'attribut de la miséricorde auquel se rattachent également d'autres titres comme celui de la bonté et de l'amour. Je vous lis quelques textes. « Moi, je suis un abîme de bonté et de miséricorde, dit le Seigneur. Si je suis un Dieu infiniment juste, je suis aussi un Père plein de miséricorde. Je suis un Dieu de miséricorde, je suis la miséricorde infinie. Je suis Dieu, mais un Dieu d'amour, je suis Père, mais un Père qui aime avec tendresse et non sévérité. Je suis l'amour et la miséricorde, je suis un Dieu d'amour, de pardon et de miséricorde. Je suis l'amour, la bonté et la miséricorde. Et voici une prière de Sœur Josepha. Me voici à vos pieds, tel que je suis, Seigneur, misère, péché, ingratitude, un être digne de tout mépris. Mais je vous vois, vous, tel que vous êtes, amour, bonté et miséricorde. Le cœur de Jésus est précisément le siège de la miséricorde. Mon cœur, dit Jésus, est le trône de la miséricorde où les plus misérables sont les mieux reçus pourvu qu'ils viennent se perdre en cet abîme d'amour. Mon cœur n'est pas seulement un abîme d'amour, il est aussi un abîme de miséricorde. Et un jour, Sœur Josepha peut s'écrier « Au cœur plein d'amour et de miséricorde ». La grande souffrance de Jésus réside dans l'ignorance des hommes concernant la miséricorde de son cœur. Le monde ne connaît pas la miséricorde de mon cœur, dit Jésus. Ah, si l'on connaissait mon cœur! Les hommes ne savent pas sa miséricorde et sa bonté, voilà ma grande douleur. À cette ignorance du monde, il faut aussi joindre chez ceux qui croient, cependant lui, le manque de confiance en sa miséricorde. Il y en a beaucoup qui croient en moi, dit Jésus, mais peu croient à mon amour. Et parmi celles qui croient en mon amour, trop peu qui comptent sur ma miséricorde. Et c'est pourquoi Jésus dit constamment, croyez en mon amour et en ma miséricorde. Alors, si vous voulez bien, nous allons lire ensemble le texte que vous avez, où j'ai glissé un petit commentaire. Donc, c'est un texte tiré de l'appel à l'amour, qui se situe le 11 et le 12 juin 1923. Au cours des siècles, j'ai révélé de différentes manières mon amour pour les hommes et je leur ai montré combien le désir de leur salut me consume. Je leur ai fait connaître mon cœur. Cette dévotion a été comme une lumière répandue sur le monde. Elle est aujourd'hui le moyen dont se servent pour toucher les cœurs la plupart de ceux qui travaillent à étendre mon règne. Jésus fait état ici de la dévotion à son divin cœur qui, depuis l'ouverture de son côté par la lance du soldat sur la croix, s'est développé d'âge en âge. Progressivement et de manière admirable, les révélations que Sainte Marguerite Marie reçut à Paris les Moniales au XVIIe siècle constituent un moment riche de ce développement qui influença de manière profonde la vie de l'Église catholique au XIXe siècle. Les révélations de Parlémonial sont importantes, mais il faut reconnaître qu'avant Parlémonial, le Seigneur, rappelez-vous, ce qui s'est passé avec un certain nombre de saints et saintes du Moyen-Âge avait déjà révélé l'amour de son cœur. Et après Parlémonial, c'est pas la fin, puisque, pour donner un exemple marquant, il y a Sœur Faustine et son message. Je continue le texte. « Je veux maintenant quelque chose de plus, continue le Seigneur, car si je demande l'amour pour répondre à celui qui me consume, ce n'est pas le seul retour que je désire des âmes. Je désire qu'elles croient en ma miséricorde, qu'elles attendent tout de ma bonté, qu'elles ne doutent jamais de mon pardon. » Jésus souligne ici la nouveauté du message qu'il donne à Sœur Josepha par rapport aux révélations de la visitandine de Parlémonial, donc Marguerite Marie. Il ne s'agit plus seulement de répondre par amour à l'amour du Christ, qui exprime ce mot latin de redamare, mais de croire à sa miséricorde. Croire en la miséricorde de Jésus, voilà la pointe du message à Sœur Josepha. Nous continuons le texte. Jésus poursuit son discours en indiquant les différents auditeurs auxquels il veut adresser un message particulier. Voilà ce que je désire expliquer aux âmes. J'enseignerai aux pécheurs que la miséricorde de mon cœur est inépuisable, aux âmes froides et indifférentes que mon cœur est un feu qui veut les embraser parce qu'il les aime, aux âmes pieuses et bonnes que mon cœur est le chemin pour avancer vers la perfection et arriver en sécurité au terme bienheureux. Enfin, aux âmes qui me sont consacrées, aux prêtres, aux religieux, à mes âmes choisies et préférées, je demanderai une fois de plus qu'elles me donnent leur amour et ne doutent pas du mien, mais surtout qu'elles me donnent leur confiance et ne doutent pas de ma miséricorde. Il est si facile d'attendre tout de mon cœur. La suite du texte, elle explique quelle sera son œuvre d'amour. Jésus veut, c'est sa volonté déterminée, pardonner, régner, répandre la paix. Mais pour régner, il commencera par faire miséricorde. Je veux pardonner, je veux régner, dit-il, je veux pardonner aux âmes et aux nations, je veux régner sur les âmes, sur les nations et sur le monde entier, je veux répandre ma paix jusqu'aux extrémités du monde, mais d'une manière spéciale sur cette terre bénie, berceau de la dévotion à mon cœur. Il s'agit de la France. Oui, je veux être sa paix, sa vie, son roi. Je suis la sagesse et le bonheur, je suis l'amour et la miséricorde, je suis la paix, je régnerai pour régner, je commencerai par faire miséricorde, car mon règne est de paix et d'amour. Voilà la fin que je veux réaliser, voilà mon œuvre d'amour. Je laisse tomber le dernier paragraphe et je termine cette seconde démarche, comme la première, par une question. Donc vous voyez, en nous mettant l'écoute de l'Évangile, nous pouvons découvrir que Jésus est miséricorde. Le témoignage de Sœur Josepha nous le redit avec force, dans des termes très directs, qui nous invite à ne pas douter, mais en croire à sa miséricorde. Alors, la question qu'il est bon de se poser, si l'Esprit Saint vous conduit de ce côté-là, qu'est-ce qui m'empêche d'accueillir la miséricorde du cœur de Jésus? Y a-t-il en moi un obstacle? Et ça, il faut le demander, poser la question à Jésus, parce que tout à l'heure, je disais, il faut distinguer le niveau conscient de ce niveau inconscient, profond de nos vies. Il n'y a que Jésus qui peut nous révéler ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Alors, si le moment est venu, il peut vous révéler ce qui fait obstacle à sa miséricorde. Et quand Jésus nous révèle cela, c'est toujours étonnant pour lui, pour nous, parce que nous sommes un peu déconcertés, nous sommes à 100 lieues d'imaginer qu'il y a tel obstacle en nous. Et évidemment, si le Seigneur nous le révèle, c'est pour nous aider à dépasser cet obstacle et aller de l'avant. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas épuisé. Non ? Alors ça va.
Merci.
Je serai en paix.